Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, nous vous l'avions promis la semaine dernière, nous voici de nouveau avec nos invités Jean-Claude Solana et Capitaine Slam, alias Thierry Tools.
Bonjour.
Bonsoir, bonjour à vous deux et merci d'être revenus donc à Radio Occitanie où nous allons un petit peu poursuivre ce que nous avons fait la semaine dernière à propos des publications de Jean-Claude Solana et de son livre « Les Dames de la Carte du Ciel ». Alors ces Dames de la Carte du Ciel, nous l'avions un petit peu évoqué la semaine dernière, parlent d'événements culturel de Toulouse. En particulier, Jean-Claude Solana nous a parlé de Maurice Magre, un des personnages vraiment importants de l'histoire de la poésie à Toulouse. Et avec les Dames de la Carte du Ciel, nous allons entrer dans ce paysage littéraire de Toulouse, hein, puisque Toulouse est riche quand même hein, d'une histoire littéraire importante. Voilà. Et avec Capitaine Slam, qui a écrit aussi sur Toulouse et qui est très attaché à cette ville, hein, comme nous sommes tous les trois. Et nous allons donc vous parler donc de ces différents événements de Toulouse avec Les Dames du Ciel, Les Dames de la Carte du Ciel, pardon, publié aux éditions Interstice de Jean-Claude Solana. Voilà. Alors Jean-Claude, nous allons commencer peut-être, si tu le veux bien, par lire un extrait de ce livre. La semaine dernière, nous avons eu Meryl Marchetti qui a fait la deuxième partie du livre, hein, la postface. Mais je crois que le mieux pour savoir ce qu'est ce livre, c'est de l'écouter un petit peu. Écouter donc la voix de ce livre.
Bon, donc, pareil pour ce livre, quoi. Enfin, voilà. Quand j'écris, je ne sais pas ce que je vais écrire. Il y a un autre qui disait, quand j'écris, lui, il avait le premier et le dernier chapitre. Et après, il disait, je fais l'arche. Moi, je suis dans l'arche tout le temps. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je commence, je ne sais pas quand je finis. Enfin, à un moment donné, je sais quand je commence, quoi. Mais rarement quand je finis. Voilà. C'est pour ça que ce bouquin aussi a une histoire singulière avec Meryl Marchetti, qu'on a eu la semaine dernière. C'est au début dont j'ai commencé à écrire. Et alors, le problème, c'était de savoir si une histoire ordinaire pouvait être extraordinaire. C'est-à-dire faire avancer le public. Bon, je m'explique. Les romans, pour moi, je trouve ça héroïque. Et l'héroïsme me fait chier, quoi. Ça emmerde. Savoir que monsieur et madame, ils vont se divorcer, ils vont abattre les mômes, machin, etc., ou les enterrer. À un moment donné, ça me prend la tête parce que c'est prévisible. Voilà. Et je n'aime pas la littérature prévisible. Après, un bémol, je peux lire des livres, je peux lire des romans, ça, il n'y a pas de problème. Mais souvent, je trouve l'exercice vain, futile. Parce que je vois où le mec qui veut en venir, où la meuf elle me conduit, quoi. Enfin voilà. Et donc j'aime pas. Voilà. Et puis, comment dire, l'idée de l'auteur omniscient, le mec qui plane sur ses pages, ça me déprime, quoi. Ça me fait chier. Ça m'emmerde. Pour moi, c'est une posture. Voilà. Donc, je me demandais, à contrario, si les histoires du quotidien pouvaient avoir un souffle, pouvaient porter. Donc, les Dames de la Carte du Ciel, c'est des micro-événements qui s'enchaînent ou qui s'emboîtent. Alors, bon, au début, j'ai commencé à écrire, c'était genre des mini-nouvelles, quoi, enfin, des paragraphes. Et je me disais, mais est-ce que ça a un sens ? Voilà. Donc, j'ai téléphoné à Meryl, j'ai dit, écoute, Meryl, là, je suis en train d'écrire un truc, je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire, mais est-ce que ça tient ? Est-ce que je te les envoie? Enfin, tu me dis. Donc, je l'ai envoyé au fur et à mesure. Et lui, il m'a dit, ouais, ça tient. Ça tient. Voilà. Et au fur et à mesure, ça tient. Enfin, j'avais pas son aval, mais un peu. Disons, j'avais un lecteur qui me disait, ça tient. Voilà. Et moi, ça me réconfortait, enfin, ça me confortait dans mon rôle d'écrivain besogneux. Et je me disais, donc, je tirais des lignes. Voilà. Je tire des lignes, je tire des lignes, je tire des lignes. Et, en même temps, enfin, parce que c'est un truc d'intello, hein, c'est changer de forme. Samir avait dit, c'est un peu Pérec et compagnie, quoi. Avec des petits événements, des micro-événements, est-ce que ça fait une histoire? Est-ce que ça fait sens? Et est-ce que quelqu'un, en lisant les petits micro-événements qui se succèdent, est-ce qu'il va se projeter? Parce que bon, quand on écrit, on a besoin de l'autre, quoi. Le texte vit par l'autre. Ça paraît con, ça fait un peu tapin, mais le texte vit par l'autre. En tant qu'auteur, moi j'ai besoin, enfin, même quand je dis des trucs, s'il n'y a pas de, enfin, bon, je peux dire des trucs où il n'y a personne, bon, c'est un peu tordu le plan. On vit parce qu'on s'adresse et parce que l'autre, il y a une sorte de feedback, quoi, qui s'établit. Et l'autre aussi produit le texte, quoi, bizarrement. Bizarrement, quoi. Donc, c'était de savoir si des petits événements de rien du tout faisaient la grande histoire, quoi. Enfin, en gros, hein, y compris l'histoire de la littérature. Parce que bon, ben, je suis un peu mégalo, enfin, je suis désolé, mais... Qu'est-ce que... Enfin, un roman, enfin, sinon ça me déprime les romans, enfin, c'est convenu. Non, parce que je n'ai pas lu de roman, j'en ai lu. Et j'aime, hein, Flaubert par exemple, Bolaño, enfin, et Yourcenar, enfin, Duras, compagnie, j'aime les romans, le problème n'est pas là. Mais nous, on vit maintenant, notre temps là, maintenant. On vit pas au 19e, on vit plus au 20e, quoi, on vit maintenant. Donc maintenant, quelle est la forme de maintenant? Parce qu'il s'agit de trouver ça aussi. Quelle est la forme de maintenant? C'est-à-dire que moi, chaque jour, quand je me lève, a priori, je ne sais pas ce qui va m'arriver en fin d'après-midi ou en fin de soirée, quoi. Pour moi, c'est l'aventure, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je suis en gros, enfin, je bouge rarement. Je suis tout le temps vautré dans le sofa. Mais qu'est-ce que je bouge, quoi? Enfin, bizarrement. Donc, c'est comment traduire cet état? C'est-à-dire, en même temps, parce que des fois, je suis là, vautré, sur mon canapé, en train de regarder les chaînes de télé en continu, là. Le monde, là, qui vient chez moi, comment le traduire? Voilà. C'est comment traduire le temps que l'on vit, maintenant, sans tomber dans des formes convenues qui me...
Non, mais je te rassure parce que je crois que tu as un côté Indiana Jones aventurier de l'arche trouvée.
Hein. Perdu, hein.
Mais moi, tu rejoins ce que disait Raymond Queneau parce qu'il disait les romans, souvent, c'est facile. En fait, les personnages, c'est comme des oies qu'on amène comme ça, ou un peu où on veut. Et il y a un côté mécanique, prévisible. Moi, je suis comme toi. Et c'est vrai que l'intérêt de ce livre, il y a. Oui, alors c'est un récit, il y a un mot qui serait peut-être. Approprié, c'est le mot sorti. Y a un côté gidien dans ton texte. Parce que ça concerne un petit périmètre que tu explores à fond. Et c'est une invitation à s'intéresser à des auteurs, à des gens qui ont été marquants et dont la trace s'efface. Et lui, il dit non, attends, on va quand même regarder. Moi, ça m'a passionné. Hein, c'est un livre. Et quand je disais la dernière fois, j'avais peur de ne pas aimer parce que tu voulais me. Que je te donne mon avis, et ça m'a plu, quoi. Et d'ailleurs, j'ai noté des phrases et tout que je dirais après, parce que ça serait bien que tu donnes un aperçu, peut-être, du livre, parce que...
Oui, il faut donner un aperçu. Moi, je dirais, je vais plus que ça. Je t'écoute avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose de très classique. Ah oui. Le sens le plus noble du texte.
Exactement.
Nous je parle de mythe, mais... pas. Hein? Voilà.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a cité un classique que je ne retrouve pas souvent dans le slam.
Oui. Et même dans cette écriture, il y a une belle écriture qui rejoint effectivement une écriture classique, oui, hein, oui. Tout à fait. Mais je dis ça, C'est un compliment, je veux dire, c'est
au sens le plus noble. Une esthétique classique.
Oui, ouais. Parce que ça n'aurait aucun sens si ce n'était pas soutenu par une belle langue, voilà. Par un style, par le style. Parce que tout ça n'a d'intérêt que si le style est à la hauteur du sujet. Voilà. Et là, je crois qu'on a effectivement, tu as réussi parfaitement. C'est pour ça que je vais te demander de bien vouloir, enfin, nous lire, Serge Blot Solana, nous lire un extrait de ces Les Dames de la Carte du Ciel.
Bon, alors j'ai pioché au hasard. Mais bon, pourquoi pas. D'accord. Voilà, le texte. Mes allées et venues s'espacent. Ainsi, je peux me consacrer à une impérieuse introspection. La plupart des sujets se raconteraient sacrés à des personnes qui reposent en paix. Ils ne seront d'aucun ennui. Je les convoquerai tour à tour. Certains portent des noms de rue, d'autres ont les leurs sur des caveaux, des tombes, d'aimables compagnons silencieux. Ils témoignent sur ce que nous sommes. Tirer, démêler des fils, saisir l'importance de l'héritage, rendre au cercle des vivants ce qui paraît inerte, enfoui, disparu. L'homme qui marche de nouveau, même privé d'ultime refuge. Je reprends mes promenades de bon matin, j'échappe de peu de me faire renverser par un livreur de journaux occupé à lire une fiche sur son siège. Entre colère et résignation, poursuivre ma route, j'aperçois, rue de la Providence, un homme titubant, un retour de fête. Je me tiens sur les gardes. Arrivé à son niveau, je reconnais un camarade, un poète espagnol, Hector. Il a laissé celui qui l'héberge en compagnie. Il ne tenait pas à déranger. Il doit marcher, un peu, patienter. Il vient d'être nommé dans le nord de la France après l'obtention du CAPES. Il a lâché l'appartement qu'il avait, est en transit. Ils ont bu toute la nuit, et de toute manière, prendre l'air permet d'évacuer, dit-il, à moitié convaincu. Il pense qu'il peut y retourner, et moi, continuer mon périple. Il me demande si ça me prend souvent, de bon matin, comme ça. Je lui explique que je fais cette promenade le plus souvent possible, et nous partons, chacun de notre côté. Il est rare de rencontrer une connaissance, aussi rare de croiser qui que ce soit. Arrivé au croisement de la rue d'Assalite et de l'avenue Jean Chaubet, une berline noire, warning allumée, au milieu de la chaussée, un homme au téléphone, et gisant sur le trottoir, un jeune homme allongé, torse nu. C'est pas vrai, vous pouvez pas faire attention, je dis à haute voix. Il me fait signe, il est en conversation, me souffle, ce n'est pas moi, je viens de le trouver. Un corps sur le trottoir, un homme, jeune, très jeune, un métis. Il saigne de la tête, une partie de la boîte crânienne éclatée. Ses bras sont brisés, les avant-bras en sens inverse. Vous pouvez prendre son pouls, demande l'automobiliste. Je me penche, presse l'avant-bras au niveau du poignet. Je ne sens rien, je réponds. Au téléphone, il renseigne. La rue est déserte. Nous sommes à côté du corps. Que s'est-il passé, je demande. Je sortais de rue d'Assalide, dans mes feux, je l'ai vu. Je partais au travail. Nous devons attendre les secours. Nous regardons le corps immobile. Un jeune, la vie devant. Il gît, là. Je finis de bouger sa voiture. Il le fait. Arrive un autre automobiliste qui s'arrête en face. Il regarde le corps. Ouvre la malle arrière, sort une bâche, prend des gants. Nous lui expliquons qu'on vient de le trouver. Il me demande de l'aider, de mettre le corps sur le dos. Je sens le poids, l'ausculte. Trop tard, il fait remarquer. Il sert dans la gendarmerie, stagiaire. Et il s'en va. Puis une voiture de police, puis des secours, puis une seconde voiture de police et des pompiers. Ils se connaissent, se saluent, papotent, nous regardent à peine. On essaie de comprendre la violence du choc, il s'est passé quoi. Ils pensent à un accident de circulation, ils cherchent des débris de feu, ils n'en trouvent pas. Ils avisent l'immeuble de la pharmacie, il a dû sauter du haut, et ça colle pas, le corps est trop éloigné. Alors ils disent qu'il est monté sur l'armature en fer de la pharmacie qui donne l'heure, le jour, la température. Nous leur faisons remarquer la violence du choc. Il n'en déborde pas, il a sauté. On ne se doit pas bouger. On relève nos identités, nous restons sur place une demi-heure. Il fait frais, en t-shirt et ma veste de survêt. Puis il nous laisse partir. Le lendemain, convoqué au commissariat, nous sommes auditionnés. La mère aura déclaré que son fils, originaire du Sénégal, était en proie au délire. Elle parlera suicide. Un jeune homme qui avait passé 14 années aux États-Unis, un joueur de football américain, il écrivait, se revendiquait poète. Il y a eu des articles dans la presse locale, la version retenue, il aurait grimpé le long de l'armature, réussi à se hisser à une hauteur de 4 mètres, se serait jeté dans le vide.
Voilà. Alors, on parle de la rue de Sali, nous sommes rue de Sali, ici. Hein, donc, oui, c'est ça. Donc, on est à quelques encablures là du lieu dont tu parles, dans l'accident. Il y a là, on est dans le vécu du quotidien le plus implacable et en même temps. Temps quand même qui est le plus impensable, parce que être le témoin d'un accident aussi extravagant, de quelqu'un qui, pour se suicider, va escalader une armature en fer d'une pharmacie pour se jeter de là, je crois que c'est quand même rarissime.
Non, mais ça tient pas. Voilà. Non, mais ça ne tient pas. Ça tient pas. Parce qu'il serait monté, admettons, bon, après je ne suis pas légiste, il ne faut pas rêver, mais il serait monté à 4 mètres, il serait jeté dans le vide, il aurait, bon, admettons, il serait payé un pain au casque, il serait mort, ça peut arriver. Mais il n'aurait pas eu les traces qu'il avait, quoi. Les bras, ils étaient coupés.
D'ailleurs, pour moi, c'est l'intelligence de l'encode, c'est qu'à partir de cette scène terrible, enfin, il aurait pu bâtir un roman policier.
Oui.
Mais justement, ça n'aurait pas été original. Oui. Parce que c'est juste quelques pages. Mais moi, ça m'a vraiment marqué, ça.
Oui, oui.
Mais tout m'a marqué, en fait. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est terrible. Ouais.
Oui. Il va quand même essayer d'apprendre comment il se nomme, etc. Il y a une curiosité.
C'est ça.
Il y a une curiosité.
Mais disons, il y a l'article dans la presse.
Et après, oui. Ouais. Et il y a... Alors, il y a... Dans ce récit, ce récit, comment dirais-je, où on essaie d'avoir une réalité sans s'emparer de cette réalité, justement. On dit les choses telles qu'elles apparaissent sans aller au-delà. Ce qu'a dit Thierry, il aurait pu bâtir quelque chose à partir de là. Non, il y a, ça me fait penser, Inouye faisait ça, hein. Il y avait une espèce de platitude dans le récit où il s'en tenait au fait, le fait. Voilà. Et c'est les faits eux-mêmes qui, s'enchaînant, créaient cette impression d'émotion qu'avait le lecteur. Voilà. Ça, c'était le style d'Hemingway. J'ai retrouvé un peu dans ce livre, j'ai retrouvé un peu cette façon d'écrire. S'en tenant aux faits, s'en tenant à une description d'un quotidien, de quelque chose, sans commenter nécessairement.
Voilà. Oui, c'est vrai.
De manière à ce que le lecteur, c'est le lecteur qui.
Oui. Voilà. C'est le behaviorisme, je crois.
Voilà.
Il y a un mot spécial pour ça.
Behaviorisme.
Et ça encore. Il y a encore.
Oui.
C'est plus surprenant que ça, en fait. C'est un livre, en tout cas, qu'on n'oublie pas, quoi.
Oui. Alors, je voudrais trouver. Je l'avais et je viens de le perdre. Je voudrais bien, peut-être, Thierry.
Pendant que vous cherchez, je vais dire une phrase là, qui m'avait marqué. L'autre, que l'on qualifie quelquefois d'alien, est-ce qu'il faut ajouter à son destin pour trouver un espace et un sens à sa vie? Parce que dire ça en ce moment, c'est pas mal, quoi.
Oui.
Il y a des phrases qui m'ont marqué, je peux vous en dire une autre. Le printemps est là, demain on... Le printemps qui arrive. Il y a des phrases qui m'ont plu sur le plan rythmique, stylistique, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît maintenant. Je lis que des livres comme ça, quoi. Donc, ce livre fait partie de mon puzzle. Moi aussi, ben, comme Christian, on écrit sur Toulouse, donc il y a ça aussi. Mais ça peut plaire à des gens qui n'habitent pas Toulouse.
Oui, mais j'ai essayé de voir autour d'un, il y a des gens qui habitent ailleurs. Des Bordelais, des Marseillais, des Parisiens. Ben, des gens qui ne connaissent pas nécessairement Toulouse. Et ça leur parlait.
Oui.
Voilà. Sans connaître pour autant, ils ne connaissent pas les lieux, machin, etc. Ouais. Ça leur parle.
Oui, ça leur parle parce qu'il y a une quête qui est un peu celle de... Tu as parlé de Pérec, on pense à Modiano aussi, peut-être Armand Gatti, en fait, peut-être Serge Pey, parce que c'est un arpenteur aussi, Serge. On se sent... Oui, on se sent chez soi. Quand on est Toulousain, mais je pense que oui, même quand on ne l'est pas, on peut être concerné par exemple, parce que ça raconte, quoi.
Je précise que les extraits que vient de lire Capitaine Slam, ce sont des extraits du livre,
voilà.
Du livre de Jean-Claude. Je vais demander qu'il poursuive peut-être voilà. Cette lecture à partir de là quelques
peut-être
extraits.
Peut-être Jean-Claude, non, c'est Jean. Ah, tu veux dire.
Voilà,
tu veux parler voilà. Plutôt le cimetière.
Alors, je préfère plutôt oui, d'accord.
Alors,
le cimetière, à partir de la phrase avec le cimetière. C'est marrant, parce que moi j'ai écrit un texte sur le cimetière, que je ferai après peut-être.
C'est où?
Ah, mais bah, peut-être que je vais. Voilà, c'est rigolo. Les zombies de Jean. Une fois qu'on a vu un film de zombies, on ne saurait être très rassuré quand on va du côté d'un cimetière. Pour ma part, je vais. Jusqu'à éviter carrément celui de Jean. J'ai trop peur, en effet, que quelqu'un. Alors, sur une tombe pour me. Ça, c'est du capitaine Slam. Ça, c'est à toi.
Dehors.
Bon, c'est un extrait tout le temps du texte. Hein. Le cimetière conservera ses allées vides, troublées seulement par de petites voiturettes électriques, conduites par des fonctionnaires du lieu et par des entreprises chargées de l'entretien des caveaux et des tombes, et de l'ouverture de sépultures lors des enterrements. Rituel tranquille, ne troublant pas le repos de félins, ayant élu domicile dans des refuges disséminés sur les deux flancs. En face de l'entrée du Chat Noir, une association œuvrant au confort et à l'installation des greffiers, les chats tiennent-ils le registre des âmes? Ils ont leur chatière en plastique installée discrètement un peu partout, et quelquefois sur de vieilles tombes abandonnées, libres de descendance. Les chats vont et viennent, y ont établi leur colonie. Au vu et au su des autorités concernées qui laissent faire, encouragent même, multipliant les refuges. Dans « Mendiant et orgueilleux », roman d'Albert Cossery, le cimetière du Caire sert de résidence à son héros. Celui-ci squatte un caveau, ravi par la tranquillité du site. Cela se passe en Égypte, berceau de nos minous. Nous avons en quelque sorte élargi la coutume. Rien ne se perd, tout prend forme. De la forme originale de l'entrée de terre cabale, rappelant l'Égypte ancienne, à ses coutumes importées, nous sommes en terre de troubadours, rêveurs inlassables, perpétuels errants. Nous rendons au monde ces étranges pratiques. Nous célébrons la vieille roue édentée du temps, qui saisit les ombres portées en terre, visage et corps creusés qui rejoignent la terre matricielle, tel le limon fertile de la vallée du Nil que célébrait en son temps Hérodote. Voilà.
Oui, super.
Oui.
Et là, il cite Albert Cosri, voilà, c'est de ce niveau.
Oui, oui, oui.
Ce qu'il écrit, oui. Je trouve, en termes de style.
Et puis j'aime beaucoup qu'il parle des chats.
Oui, et en plus, greffier chez Céline, ça veut dire chat.
Oui, oui, ça, bien sûr, mais le greffier, c'est le chat, toujours.
Hein. Oui, oui.
Mais c'est rigolo, parce que je sais pas si vous baladez dans ce cimetière. Mais c'est squatté par les gens, c'est trop rigolo. Oui. Et ils ont, enfin, des fois, c'est improbable. Quoi. Et bon, je trouve ça rigolo. Enfin, personnellement, je trouve ça rigolo. Il n'y a pas que
moi. Alors, moi, c'est un lieu que je leur laisse. Hein. C'est ce que dit mon petit texte. Ça m'angoisse, mon petit.
Oui. Ah, t'aimes pas les émotions hein.
J'ai du mal, moi.
Ah ouais.
Parce que justement, j'ai vu des films de zombies, là. The Walking Dead et tout.
Toi, t'aimes pas ça. Non, vraiment, je trouve ça tranquille, quoi.
Ah oui.
Et si vous faites de la lutte armée, si vous avez encore un venir, un cimetière. Non, je rigole, mais enfin, en moitié. Mais cimetière, c'est des vues dégagées. On voit si on est
sorti
ou pas. Et a priori, c'est des endroits hyper tranquilles. Parce que tout le monde a peur, même...
Non, c'est pas faux. Ouais. On verrait bien un western, un gunfight.
Ouais, non, mais
Sergio Leone dans un cimetière, c'est très bien, ouais. T'as raison. Ouais.
Alors, ce cimetière, c'est le cimetière de Terre-Cabane.
Terre-Cabane.
Il est juste à côté donc, de
l'Institut. Ouais, hein. Oui,
c'est à côté.
Voilà, on est juste à côté. On parle de notre voisin. On va écouter un peu, Capitaine Slam.
Non, mais moi, je vais peut-être reformuler un texte que vous avez déjà dit, que j'ai un peu amélioré, là, qui parle justement de l'Observatoire de Toulouse. C'est le moment jamais de le faire. Hein. L'observatoire réside, image romantique, c'est un lieu inquiétant, mystérieux, poétique. Parfois j'y déambule, sombre et mélancolique, j'y promène mon spleen et mon cafard cosmique. Considérant la vie comme un grand jeu de et critique à l'égard de notre société, je le vois comme de confuses paroles. Me baladant ainsi autour des télescopes, je pense à Baudelaire et au fils de la taupe, et je me fais l'effet d'un albatros blessé. Mon slalom terminé, je rentre à la zone mais, puis me fais à bouffer à propos.
Ça, c'est du slam.
Oh, non, c'est un sonnet.
Oui,
et avec une allusion. Oui, ça peut être dit sur scène. Alors, ouais. le fils de la taupe, c'est littéraire, attention, ça rigole pas. C'est quand Hamlet s'adresse à son spectre de père, il l'appelle vieille taupe.
Ouais.
Alors, le fils de la taupe, ouais. Moi, c'est Hamlet.
D'accord.
Voilà. Donc, puis, c'est vrai que Yves Charnay ne jure que par Baudelaire, il a bien raison. Moi, j'ai lu des petits poèmes en prose que j'avais pas lus. J'ai lu Mon cœur mis à nu, et c'est un auteur que j'adore en fait. C'est vrai qu'en vieillissant, il y a des auteurs que j'ai pas trop calculés, qui m'ont intéressé, mais sans plus. Et là, je me dis, c'était vraiment quelqu'un de très fort, quoi, de très complexe, qui avait beaucoup de masques. C'était un homme que je trouve sympathique, moi en fait, malgré sa noirceur apparente.
Le meilleur livre de Bernard-Henri Lévy, ça s'appelle Les derniers jours de Charles Baudelaire, et c'est sublime. Voilà. Comment il a fini sa vie en Belgique, là,
ah oui.
Dans ce lieu qu'il détestait.
Ah oui, ils ont ramassé les Belges.
Voilà. Hein, oui. Oui. Mais ce livre était vraiment, c'est un livre littéraire et totalement, mais c'est excellent sur Baudelaire, absolument excellent. Voilà.
Bon. Je vais vous faire un texte, si vous voulez, sur le pont Saint-Pierre.
Ah, c'est très bien. Jean-Claude Cholona sur le pont Saint-Pierre.
C'est
alors, pour nos auditeurs, le pont Saint-Pierre, c'est un pont qui enjambe la Garonne.
C'est ça. Et qu'ils ont fait disparaître, c'était le
pont métallique. C'était un pont métallique.
Voilà. Un pont métallique qu'avait construit FN.
Voilà.
Et donc, ils ont décidé à un moment donné de sortir le pont. Ce pont était génial, parce que moi, j'habitais à l'époque à Saint-Cyprien. Il bougeait.
Oui.
Et c'était super, enfin, franchement, moi, de grands souvenirs avec ce pont, dont ils ont décidé de le détruire pour faire un pont
plus classique.
Ouais, bref. Donc c'est, enfin, en même temps, bon, il ne faut pas pleurer sur quelque chose qui...
Oui, parce qu'il est solide, celui-là, quand même.
Hein?
C'est un pont solide.
Ah oui, non, c'est vrai, il est hyper solide. Ouais. Alors que l'autre, ils auraient pu le conserver. Mais bon, enfin, c'est une autre histoire. Donc, À un moment donné, j'ai fréquenté Manu Solo. Enfin, Manu, à l'époque, il ne s'appelait pas Solo parce qu'on était plusieurs, enfin, il fréquentait plusieurs personnes. Et il s'est appelé Solo pour nous dire, allez-vous voir à Terre Cabane si j'y suis. Voilà. Donc Manon m'a fait l'honneur, le privilège de faire un dessin, voilà, sur le pont Saint-Pierre, qu'il n'a jamais vu. Et parce que j'y avais passé une carte postale, hein, avec le pont, et il a fait ce dessin, que je trouve sublime, hein, faire autre chose. Sans, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le pont Saint-Pierre, en disant.
Il a le sens de l'ellipse. Hein.
Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, et il l'a recopié, enfin, c'est lui le texte, il l'a recopié enfin, à la plume. Parce qu'à l'époque, il était punk, il faisait nos futurs, machin, etc. Et c'est. Pour moi, Manon, c'était un moine. Enfin, sans méchanceté pour les moines. C'était. Enfin, ouais, c'était un mec hyper fort, quoi. Enfin, c'était le fils de Cavu, et c'était quelqu'un de. Je pense très important. Il est mort, bon, il est mort, ça fait une dizaine d'années qu'il est mort. Des gens le considèrent comme un chanteur, machin, etc. Mais moi, à l'époque, ben, j'étais son marchand de tableaux. Et donc, Fino, je lui disais, mais arrête de chanter. Ça sert à que dalle, quoi. Enfin, franchement, t'es pas chanteur, t'es peintre. Alors, il m'a regardé, mis amusé, enfin, intrigué, amusé. Mais il m'a fait remarquer un jour, il m'a dit, bon, Jean-Claude, je suis peintre, ok, très bien. Mais la maturité d'un peintre, c'est quel âge? 50 ans. Je serais mort. Voilà. Et je pense qu'il a bien fait de continuer à chanter, parce que ça a permis de trouver un public, il a vu un public, il a fait des concerts, ça a marché pour lui. Et mais, je suis un fan de Manu Solo, et en même temps collectionneur, parce que j'ai des tableaux de Manu. Et une fois, j'étais tombé sur une nana qui organisait des expos, quoi, ce qu'on appelle un commissaire d'exposition. Et elle disait, il ne s'est rien passé au niveau graphique, hein, pour le sida en France. Bon, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai failli lui écrire à cette meuf. Mais après, je me suis dit, elle est trop conne, quoi. Enfin, sans méchanceté pour elle. Manu, comme Coltès, comme Guibert, mais dans un autre registre, quoi, a peint le sida. Enfin, la première fois que je suis monté sur sa péniche, j'étais avec mes mômes, j'étais avec mes deux gosses, ma fille Morgane et mon fils Johan, et ma fille voulait monter sur une péniche. Très bien. Alors, moi, j'ai expliqué que pour monter sur une péniche, il faut avoir la permission des gens qui y habitaient. Et a priori, bon, il y avait des péniches, mais il n'y avait personne. Et à un moment donné, une péniche avec un jeune sur la péniche. Donc je me suis adressé à lui. J'ai demandé, j'ai ma fille qui voudrait monter sur une péniche. C'est possible de... Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, machin, etc. On a commencé à papoter. Et j'ai fait, vous faites quoi surtout? Il m'a dit, je suis peintre. Ok. J'ai dit, oh, putain, j'adore la peinture. Et bien il me dit, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Et là, il me sort un tableau, c'était deux mains, deux yeux, un virus. À l'époque, c'était les premiers temps du sida, quoi. C'était hyper violent, enfin, à cette époque-là, tout le monde se recroquevillait dans sa petite coquille, quoi. Et c'était hyper violent, enfin, c'était hyper violent, voilà. Et on est devenus amis. Et c'était Manu Solo. Et il a peint le sida, parce qu'il était plus malin que ça, quoi. Mais il a peint ce temps-là. Voilà. Donc, comment j'entends, ben, je suis désolé, Manu, pour moi, reste un des plus grands peintres, ouais, être un mec hyper important. Et j'aimerais que ce soit à un moment donné reconnu, parce que. C'est pas pour moi, enfin, c'est aussi peut-être pour le prix de mes tableaux. Mais non, c'est pour lui, enfin, Manu est un peintre hyper, hyper important. Hyper important. Et il adorait Picasso. Parce qu'il disait, après Picasso, qu'est-ce que tu veux peindre? Ce qui n'est pas faux. Donc il avait fait un tableau une fois, c'est Jean-Claude Picasso. Un hommage. Et je pense que c'était normal. Et je pense qu'à un moment, il avait eu une histoire d'amour avec une nana. Et la nana, elle avait disjoncté. Et elle a fait ce tableau à coups de couteau. Voilà. Et ça me faisait sourire, quoi. Et moi, j'aimais bien ce genre de truc. Bon, hein. Ok, elle n'aurait pas dû, quand même. Hein. Enfin, tu vois, attaquer un tableau à coups de couteau, ça se fait pas. Mais bon, ceci dit, il valait mieux le tableau que lui, quoi. Aussi. Donc, c'était la rançon de la gloire. Mais j'aimerais bien que... Donc, il y a un mec à Paris, parce que, pour finir un peu l'histoire, qui s'appelle Fritz Kleinberg. Fritz Kleinberg, à un moment donné, j'ai vu un reportage sur FR3 Nice, et Fred était présenté comme la relève de la peinture française. Bon, ok, très bien. J'ai des tableaux aussi de Fred. J'aimerais que Fred parle davantage devant nous. C'est bien de le peindre, en plus il le peint mal, mais parler. Qui sait Manu, quoi, enfin, parce que lui il est plus à même ici, d'intéresser plus de monde que moi ce que je peux faire, quoi. Voilà. Mais si, enfin, j'essaie. Et Manu pour moi restera. Pour moi, c'est un mec... j'ai fait mon école d'art avec Manu. Manu, c'était le fils de Cabu. Cabu, je l'ai rencontré une fois à Paris. Le texte que j'ai lu, de toute façon, tout à l'heure, à part ça, par thèse, Kanaki, le mec, là, j'avais l'impression qu'il sortait du club Dorothée, quoi. Il m'a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, quoi. Et moi, j'étais... Et voilà. Et c'est ce genre de carburant qui m'a permis de tenir des rencontres, comme ça. Parce qu'un poète, souvent, on dit, ouais, le mec, il est tout seul, machin, etc. Mais tout ça, c'est des foutaises, quoi. Un poète, il est accompagné, quoi. Je parle pas nécessairement de cimetière, quoi. Mais il est accompagné, quoi. Si moi, j'en suis où j'en suis, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont aimé, quoi. Et je les remercierai jamais assez, quoi. Franchement, c'est pas après pour passer le lac pour moi, j'en ai pas. Franchement, mais... Un poète n'est jamais seul. Il se trimballe son cirque, quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça. Voilà. Ah oui, ouais.
Tu fais bien de parler de ça, parce que pour moi, Jean-Claude, c'est celui qui fait le lien entre la poésie et les arts plastiques, en fait. Ça fait partie des choses que tu apportes. Parce que tu nous as invités souvent avec Meryl dans ce lieu génial qui s'appelle, c'est le 22. Hein.
Ouais, le 22.
Le salon reçoit, moi j'y suis allé plusieurs fois avec Jacques Mégodas. On avait un côté, il y a eu les Trois Mousquetaires qui sont sortis, il est beau ce film. On avait un côté Trois Mousquetaires, c'est toi qui as été à l'origine de ça, quoi. On s'est relayé pour faire des textes et c'est un contexte différent, pas évident parce que les gens qui viennent, ils viennent surtout pour les œuvres.
Ouais.
Donc pour moi c'était génial de pouvoir venir, tu l'as fait plusieurs fois. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que il y a un côté. Les arts sont cloisonnés un petit peu, quoi. C'est dommage, quoi. Le texte. Parce que c'est vrai que Manon Solo, moi, je le connais. C'est toi qui m'as appris qu'il était peintre, en fait. Ouais. Donc, c'est bien que tu dises qu'il n'était pas que ce poète-chanteur charismatique.
Non, il est. Enfin, pour moi, il est. Enfin, il est. C'est le chanteur charismatique, etc. Connu, reconnu, etc. Mais. En plus, je suis co-auteur d'une chanson de Manu Solo. C'est Allez, viens. Allez, viens. Parce qu'il terminait le truc sur un truc bizarre. Et moi, j'ai dit non, il faut que tu dises Allez, viens. Donc, la chanson qui s'appelle Allez, viens, le dernier truc, Allez, viens, c'est moi.
Ça, c'est la prochaine fois, Christian, qu'on illustrerait. Faudra... Et si tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait une chanson avec Claude Sicre aussi.
Non, avec Claude, on a travaillé sur des textes, quoi, que j'ai écrits, et lui me faisait la musique derrière, quoi. Claude, c'est un fabuleux farfelu. Moi, au début, Claude, je connaissais pas, je l'ai vu deux fois en concert avec Ange B, j'avais vachement aimé. Et un jour, bon, j'étais devant le chose avec Fred du Corbeau, et Claude qui arrive. Et qui nous explique qu'il y avait le marathon des mots, qu'il fallait déplacer le forum des langues, et que lui, il a pas voulu, et que c'est comme ça, moi je fais ce que j'ai envie. Et il dit, Solana, moi je suis un rebelle, il m'a fait. Et moi je le regarde sérieusement, je lui dis, non, t'es pas un rebelle, t'es un institutionnel, quoi. Et là, il me dit, Solana, t'es un gros con.
Ça finit souvent comme ça, les rebelles. Hein.
Ouais. Claude, c'est quand même aussi c'est quand même le Fidel Castro de la vie culturelle toulousaine, il faut le dire.
Mais c'est vrai qu'il est institutionnel, maintenant.
Ouais. Mais il n'est pas que. Parce que
oui, oui, oui.
Alors,
bien
moi,
sûr,
j'ai été
complexe, hein.
J'ai été chez lui, une fois j'allais chez lui, dont on devait répéter des textes que j'avais écrits, et lui mettait la musique derrière. Et sur une table basse, un bouquin ouvert, au vide. Oui, très bien. Donc je prends le bouquin comme ça, version latine, version française. Je lui fais, tu lis ça, toi ? Pourquoi pas, enfin, j'ai rien contre Ovid, ni Claude. J'étais surpris. Tu lis ça ? Et il a fait, ouais, je lis ça. Et je lui fais, tu lis en français ? Con. Tu lis en français ? Non, il me dit en latin. Je lui fais, pardon ? Tu vis en latin, enfin, des latinistes, ça ne court pas les trottoirs. Quoi. Enfin, je ne veux pas être méchant, il y en a, hein, mais ça ne court pas les rues. Je pense qu'il lit le latin, enfin, voilà, très bien. Et donc, avec Claude, on a fait un disque, un CD, 3 exemplaires dans le monde, moi un, et je ne suis même pas sûr qu'il en ait un, dont à chaque fois c'était des impros qu'il faisait. Et alors, chez lui, il a une collection d'instruments tout cassés. Tous les instruments qu'il y a au mur, ils sont pétés d'une manière ou d'une autre. Et alors, des trucs, non, mais c'est pas possible de jouer avec. Non, c'est pas possible de jouer avec. Eh bien, il tombe une mélodie en 2 minutes, quoi. Et ça, c'est hallucinant. Et donc, on avait été chez dans un studio d'enregistrement que lui avait trouvé. Alors, en plus, le studio d'enregistrement, là, on part. Et j'étais avec Amina. Qui lui dit Assikr, salam alaikum, alaikum salam, machin, etc. Qui lui demande des nouvelles de sa famille. Et Assikr, je ne sais pas pourquoi, il était mal luné. Il fait qu'est-ce que t'en as à foutre de ma famille. Il l'envoie chier. Et là, Amina qui embraye en lui disant qui il était. C'est un grand moment. Un grand moment. Et donc moi, j'étais un peu, ah ouais, bon, d'accord, ça part bien. Là, ça part. Et à la fin, bon, ça se calme. Il me fait qu'est-ce qu'on fait, Solana. Et je dis, on y va. Et on va à Pelbonieu chez le guitariste de Félix Laputaragne. Alors Félix Laputaragne, pour moi, enfin, j'ai vu 2 concerts de Félix Laputaragne, et c'était le groupe le plus joyeux qu'il y a eu à Toulouse. Il charriait des quantités de gens. Tout le monde était accro à Félix Laputaragne. Le chanteur de Félix Laputaragne, je sais pas, il a rêvé un soir qu'il était chanteur lyrique, quoi. Donc il a laissé tomber le groupe, quoi. Et il s'est foutu à l'opéra. Bon, la carrière qu'il aurait pu avoir avec Félix Laputaragne, je sais pas, c'est une sorte de mec qui s'est fait un autobuffier, quoi. Enfin bref. Et je l'ai vu la dernière fois, il y a 2 jours, de ce mec-là, à la dernière du Cactus à Toulouse. Voilà. Et j'ai été le voir, lui dire. Écoute, de tous les groupes que j'ai vus, vous êtes parmi les meilleurs groupes que j'ai vus dans ma vie. Et c'était pas un compliment à vide, hein, c'était. Ouais, parce que Félix Laputaragne. Bon, ouais, donc je vais lire un texte, c'est pas Félix Laputaragne. C'est. Donc, ouais, pour en finir avec Félix Laputaragne, juste. Donc, autant Sicre, tous les instruments, ils sont pourris, déglingués, machin, etc., passés, etc. Et il arrive à tomber. Des mélodies, on se demande comment. A contrario, chez Marco, de Félix Laputaragne, il y avait des guitares partout, hyper clean, bien posées, machin, etc. Et moi, le mec, il ne me connaissait pas. Au début, il m'a regardé comme si j'étais un neuneu. Tu le sors d'où, le neuneu ? Il ne pouvait pas le dire. Hein, parce qu'il est poli, machin, etc. Mais moi, rien que quand il m'a regardé, je me suis dit, il me prend pour un neuneu. Ah, mais t'as le droit de prendre pour un, tu connais pas. Et puis on a commencé à faire un titre. On tombe un titre, 2 titres, on tombe 2 titres. Et là, le mec, il nous regarde, il nous fait je peux jouer avec vous. Et il a joué avec nous. C'était super. Bon, je vais faire un texte alors, sur le pont Saint-Pierre. Tiens, clic. Ouais, alors, juste les deux. Voilà, j'ai eu un prof de français, qui s'appelait Monsieur Marzibou, c'est peut-être pour. Aussi pour ça que j'écris. Donc il me faisait à l'époque ombre-lumière, machin, etc. Pour lui c'était vachement important. Voilà. Donc, peut-être pour, à cause de lui, ou grâce à lui, le poème commence comme ça. Ombre, lumière, sombre et luz, pont Saint-Pierre, blouse. Homme, araignée, tissant l'espace d'arabesque au chalumeau, l'acier flamboie, gerbe de fer. La ville est un cirque, une arène, le taureau métallique n'enjambe plus Garonne. Quai Saint-Pierre, l'accès au cœur de ville est mort. Le passeur de barque traque le souvenir chez les vieux, il est là, peuplant le fleuve de passage. Poutrelles, arches, barques, tout se mêle. Entends-tu le râle de bagnole qui ne passe plus? Peuple, rivé à sa décomposition, spectacle unique, rare, rappelant notre destinée. Pont Saint-Pierre, en surimpression, sur fond de barcasse, livrant le grain à l'arrière-pays. Port, ivre de paix, digue, écho de destinée, de cru, de décru, de matin calme, qui chante, vante le vent d'autant en pays Qatar. La ville est taureau, arène, sombre et lousse. Déjà, pile d'acier, en banderille plantée, un monde d'honneur, vive la reine.
Thierry, peut-être enchaîner.
Enchaîner, bon.
Sur le pont Saint-Pierre.
Oh, je ne sais pas, non, mais je suis impressionné. Hein. Moi, j'ai une anecdote sur un chanteur-poète, Dick Annegarn. Un jour, il était pressenti pour écrire des chansons pour Johnny Hallyday. Ah. Il m'a fait cet honneur, il m'a dit, tiens Thierry, toi qui aimes bien faire des textes où tu gueules et tout, t'as un côté rock'n'roll, il faut que tu viennes me dire ce que t'en penses. Il m'a fait lire un texte que j'ai trouvé complètement nul, avec des fautes de français. Il a pris sa guitare, il a commencé, il a mis le texte sur le pupitre, il a pris sa guitare, il s'est mis à jouer, et c'était génial. Voilà. Et ça, j'ai compris quand même la différence entre un poète et un chanteur-poète, ce jour-là, quoi.
Ouais, ça c'est le fait. Hein.
Après, non, mais je suis embêté parce que non, c'est j'aimerais bien faire un truc un petit peu raccord. Là, j'ai un truc marrant, là, que je vais pas retrouver, là, malheureusement. Eh oui, je l'ai pas là, malheureusement. Un texte assez rigolo. Ah, si, je l'ai. Parce que je sais que ça vous plaît quand je pourris Serge Paye. Donc ça, c'est mon nouveau texte. À vous. À Toulouse, nous avons Serge Paye. Ratissant large, c'est fabuleux, impressionnant. Nous pouvons entre vous nous initier à l'alchimie, visiter l'outre-monde, et accéder in fine à la dive saucisse et au sein cassoulet. Et voici qu'il l'évite, à la façon du docteur Strange. Regardez-nous, il s'allume, puis se pose sur le pôle, en poussant tel Tarzan son légendaire cri. La porte et l'épaule, la porte et l'épaule. Ah, vraiment, Serge Paye, tu n'es pas de notre galaxie. Là, il y a un côté toulousain aujourd'hui. Hein. Mais fais-en un autre, Jean-Claude. Profite. Moi, il m'a fait passer plein de fois, Christian. Donc, il faut profiter de ta présence. Moi, pendant que tu cherches, je vais en faire un très court. Oui. Dédicace à Francis Pornon. Parce que Francis, il a écrit un très beau livre sur Toulouse. Mais Francis... D'ailleurs, Francis, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à Francis qu'on se connaît, Christian. Oui. On s'était croisés, mais on avait parlé de vous. Je dis, j'aime bien l'émission de Christian. Il me dit, tiens, viens, je vais t'inviter. Mais il a dit, tu sais qu'il a écrit un poulpe. J'aime bien ce genre de littérature, moi. Et donc, Francis a fait un livre récemment sur Toulouse, mais il a aucun mérite parce qu'il parle des beautés de Toulouse. Eh bien, moi, je suis plus fort parce que moi, j'évoque un Toulouse qui n'est pas forcément beau. Et en face de chez moi, voilà, j'ai vu un jardin je ne m'étais pas rendu compte de l'existence. C'est un jardin foireux, en fait. Je suis content d'avoir écrit là-dessus. Dans une petite cour d'immeuble que je vois de chez moi, on a tenté le jardin sec, composé de gravier blanc et de deux arbres frêles d'aspect sobre et commun. C'est ni bon ni mauvais, japonais par snobisme et c'est zen si l'on veut. Or, je le veux. Sois zen, petit jardin, sois zen, je le veux. Et ça marche. Ça marche, ça m'apaise, et ça influe sur mon comportement. Mais c'est vraiment parce que je le veux bien. À toi.
Ouais. Bon, alors toujours extrait de Les Dames de la Carte du Ciel.
Le printemps est là, donnant aux arbres des airs déchevelés, surpris des effets d'une nouvelle sève. La vie, ses teintes de vert tendre, tout nouveau, tout beau, les jours de froid sont oubliés, le ciel se remplit de bleu pâle, au bleu céruléen, et tire ses bordées outre-mer. Rien n'est stable, des mondes s'empilent, se conjuguent. Les constructions sont affaires de volonté et de hasard, de circonstances. Des couches se superposent, strates géologiques aux mémoires fossiles. Nous frayons nos routes au milieu de décombres. Terrains vagues dressés au cordeau, des refuges de bergers aux parkings souterrains. Le progrès n'est qu'empilement d'usage, hein, et se réjouir de ces hymnes à la vie livrée à profusion, retrouver l'insouciance de l'enfant dans le tourbillon d'un corps qui se joue des espaces, hein, et joue l'étonnement à chacun de ses gestes.
Les Dames de la Carte du Ciel, aux éditions Interstice.
Tout à fait. Et juste, voilà, je dois remercier mon cousin, parce que sans mon cousin, le bouquin n'existerait pas. Voilà. Donc Jean-Paul Marty, c'est lui qui m'a fait ce cadeau.
Je peux dire un passage du livre de Jean-Claude. Oui. Je devais me résoudre à l'absence, donner le change. Brusquement, tout ce qui me reliait au passé se dissolvait. Avec le temps, les jours sont des voiles pesantes sur un passé qui peu à peu on vit. Il faut oublier à tout prix. Les habitudes que l'on croyait acquises sont des liens qu'il faut briser. Et ça se fait au jour le jour. Les êtres chers deviennent ombres au territoire informe. L'héritage est saccagé. Il faut conquérir sa nouvelle place, se faire de nouveaux compagnons, se satisfaire d'une histoire amputée. Les autochtones ne le savent pas encore, mais le pays leur file entre les doigts. Le verbe les dépossède. Nommer, c'est imposer un ordre. Je peux lire encore... ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est que la dernière fois, Meryl a fait allusion à ton passé sportif. Et il y a un côté sportif, en fait. C'est pas tout à fait une errance, parce qu'il y a un côté oulipien, c'est une passion sportive. Encore et toujours renouvelée. Il y a des stations dans le sens christique. Il y a une souffrance qui s'exprime aussi, mais il y a aussi une confiance dans la capacité des gens à ne pas oublier complètement ce qui mérite de ne pas être oublié. Et voilà, tu as évoqué Pérec, tu as fait allusion à Pérec, mais dans le livre, il y a une allusion à Pérec. Moi, ça m'a touché, ça. J'ai parlé de Modiano, mais la hache de l'histoire n'a pas frappé de la même manière. Paris et Toulouse, c'est quand même pas la même chose. Mais il y a ce côté quête-recherche dans ce livre. Mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Et moi, ce que je m'amuserai à faire un jour, c'est que je referai le chemin. Parce que tu fais allusion, ça s'est vu tout à l'heure, à des lieux précis. Et comme pour un pèlerinage ou un chemin de Compostelle, je ferai sans doute... c'est un circuit obsessionnel, en fait. Tu l'as fait plusieurs... c'était une obsession, un petit peu, ce...
Non, c'était pas une obsession, c'était à un moment donné, je pouvais plus marcher.
C'était une discipline qui t'est imposée.
Je pouvais plus marcher. Donc, à un moment donné, ça a duré plusieurs mois, je pouvais plus marcher. Et je pensais que je pourrais jamais plus marcher. Voilà. J'ai essayé de savoir ce qui m'arrivait, on n'a pas su. J'ai fait des analyses, machin, etc. J'ai vu des toubibs. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à se dérégler. Donc, j'habite à côté du parc Michelet, donc j'ai commencé à faire le tour du parc Michelet, quoi. voilà, tout gentiment, mais un tour, voilà, très, très cool, deux tours. Et puis à un moment donné, j'ai fait de chez moi, j'habite la rue Saint-Laurent, j'ai été jusqu'à la rue La Providence, quoi, enfin, et puis boum, j'ai parcouru le quartier, et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, j'ai repris, mais j'ai pas, je ne fais même pas le même parcours. Mais bon, je fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au moins une heure, enfin, mais là, à l'époque, c'était 1h3/4, à peu près. Voilà. Et donc, au début, l'idée, c'est on voit sans voir. Mais c'est pour tout le monde pareil. Bon. Alors, on passe une fois dans une rue, on voit par exemple un pylône. Ok, très bien. Deuxième fois, on voit une plaque d'égout. Troisième fois, on voit une rigole. Et peu à peu, le paysage se complexifie et on voit et on s'imprègne.
Et ça donne les vermes de la carte du ciel.
Voilà. Bien, merci. Et
c'est Machado qui disait que le texte se fait en marchant et c'est bien vrai. Donc, Jean-Claude Solana, les dames de la carte du ciel, l'édition Interstice. Merci Thierry, et merci Jean-Claude. À très bientôt. Ainsi s'achève le débat. Claude Dégé, moi nous vous souhaitons une excellente soirée avec le Radio Occitane. Et nous vous disons la semaine prochaine à 17h.